Hélène Philly pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Paris exige une enquête après la mort du journaliste Frédéric Leclerc-Imoff, reporter à BFM TV. Un double crime pour la ministre des Affaires étrangères qui est en ce moment même en Ukraine parce qu'il a été tué alors qu'il couvrait une évacuation humanitaire. Cette question toujours 48 heures après le fiasco du Stade de France. À qui la faute ? Gérald Darmanin parle de fraude massive, industrielle aux faux billets, enquête ouverte, on verra ce qu'il en est. Et il pointe du doigt les Britanniques, ce qui ne passe pas du tout à Londres. L'actualité, c'est encore promis, il n'y aura pas de rattrapage de la hausse des prix de l'électricité l'an prochain, mais Bruno Le Maire le reconnaît, il y aura un besoin de financement supplémentaire de 2 milliards d'euros. La campagne des législatives, nous irons à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine, et puis la 33e cérémonie des Molières, c'est ce soir aux Folies Bergères, et nous sommes sur place et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, on profite du début de la campagne officielle pour faire un petit peu le point, 15 jours des législatives, mais le point sur quoi exactement? Elle parle de quoi cette campagne? Alors, bien sûr, vous voyez des candidats sur les marchés, mais avez-vous le sentiment que la campagne a commencé? Quel sujet accroche réellement avec La République En Marche qui a l'air de marcher un peu à côté de sa campagne qu'on n'entend pas vraiment? On en parle ensemble en tout cas au 01 45 24 7000.
France Inter.
Montrer la guerre et y perdre la vie, c'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé en milieu d'après-midi. Un journaliste français, Frédéric Leclerc-Imoff, a été tué en Ukraine alors qu'il couvrait une opération d'évacuation près de Severodonetsk. La France réclame une enquête et c'est forcément la voix blanche que la rédaction de BFM TV a donné la nouvelle quelques minutes plus tard.
Le groupe Altice Média à l'immense douleur de vous annoncer la disparition de l'un des nôtres, Frédéric Leclerc-Imoff, reporter, journaliste reporter d'images. Il a été tué aujourd'hui près de Lysychansk dans la région de Severodonetsk en Ukraine où il couvrait bien sûr pour BFM TV la guerre en cours.
François Guépillon qui annonce le décès de son confrère Frédéric Leclerc-Imoff. Il avait 32 ans. Bonsoir Eric Biegala.
Bonsoir Alain.
Et il travaillait donc comme journaliste reporter d'images à BFM TV.
Oui, Frédéric Leclerc-Imoff travaillait régulièrement pour BFM TV comme JRI, ce qu'on appelle JRI, journaliste reporter d'images, autrement dit caméraman, mais aussi à l'occasion pour France Télévisions hein, depuis 2015. Il couvrait l'actualité au jour le jour, la politique, les faits divers, des inondations aux feux de forêt, des tournages dans les camps d'exilés, aux tapis feutrés des ministères, écrit-il sur sa page de présentation de la plateforme Malte réservée aux indépendants. Il travaillait aussi les sujets en longueur, des magazines dont il pouvait à l'occasion assurer la réalisation. C'était sa deuxième mission en Ukraine pour BFM TV. Il y faisait équipe avec le reporter Maxime Brandstatter, avec qui il se trouvait d'ailleurs ce matin.
Et donc Paris, je le disais, réclame une enquête et dénonce un double crime contre un convoi humanitaire et contre un journaliste. Que sait-on, Eric, des circonstances de ce drame ?
Eh bien, c'est en couvrant une évacuation hein, des villes et villages sous la pression de l'offensive russe dans le Donbass que le caméraman a été tué. Depuis une semaine, en effet, les services ukrainiens évacuent les quelques civils qui demeurent encore dans les villes de Severodonetsk et Lysychansk et dans les localités environnantes. Des évacuations faites souvent avec de simples voitures personnel, mais ce lundi, c'était l'évacuation d'une dizaine de personnes qui était organisée. Une évacuation dans un camion dont les flancs, l'habitacle et le pare-brise avaient été blindés et clairement estampillés aide humanitaire ukrainienne. Mais manifestement, lors d'un bombardement de l'axe sur lequel progressait le véhicule, et au vu des photos publiées sur le compte Telegram du gouverneur de la province, un unique éclat d'obus a transpercé le pare-brise blindé, une vitre de plusieurs centimètres d'épaisseur, touchant au cou Frédéric Leclerc-Imoff, qui était installé dans l'habitacle et qui portait casque et gilet pare-balles. Maxime Brandstatter, le reporter qui l'accompagnait et qui se trouvait à ses côtés, n'a été que très légèrement touché. Frédéric Leclerc-Imoff est le 8e reporter tué en Ukraine depuis le début du conflit.
Et Maxime Brandstatter doit être rapatrié très rapidement en France. Une cellule psychologique a été mise en place au sein de la rédaction de BFM TV et la France demande des comptes. La ministre française des Affaires étrangères en ce moment même à Kiev.
Cette journée est malheureusement endeuillée par ce drame. Ce drame qui est en réalité un crime puisque un convoi d'évacuation a été attaqué et un journaliste qui faisait son métier a été tué. J'ai parlé au président Zelensky. Je lui ai demandé de faire tout son possible pour que les autorités ukrainiennes nous aident. Il m'a promis qu'il aiderait. L'enquête sera menée par les autorités ukrainiennes. C'est une zone d'ailleurs qui n'est pas accessible, qui est une zone de combat. Et nous serons en lien par le canal de l'ambassade, par le centre spécialisé du Quai d'Orsay pour avoir les remontées d'informations sur les circonstances précises qui sont celles que vous connaissez, un convoi qui part, un journaliste qui insiste pour monter dans ce convoi. et malheureusement un obus qui tombe à proximité et qui le blesse mortellement.
Catherine Colonna, la plus haute responsable française à se rendre en Ukraine depuis le début de la guerre, avec Thibault Lefebvre et Alexandre Abergel. La situation de plus en plus difficile à tenir pour les Ukrainiens du côté de Severodonetsk, que les Russes bombardent depuis des semaines et où se dérouleraient à présent des combats de rue, selon le gouverneur de la région.
L'autre grand titre de ce soir, ce sont les suites du chaos de samedi au Stade de France.
Attente interminable, mouvement de foule, gaz lacrymogène. Qui est responsable du fiasco en marge de la finale de la Ligue des Champions? Le ministre de l'Intérieur parle de fraude massive, industrielle et organisée de faux billets. 30 à 40 000 supporters britanniques sans vraie place au premier filtrage. L'enquête qui vient d'être ouverte dira l'ampleur véritable. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Parce qu'il y a encore beaucoup de questions, voire de doutes.
Oui, le parquet de Bobigny a ouvert cet après-midi une enquête pour fraude massive aux faux billets, enquête confiée à la brigade de répression de la délinquance astucieuse de la police judiciaire parisienne. Les enquêteurs devront établir si des faux billets ont été achetés et imprimés en Angleterre ou acquis à Paris dans les 48 heures précédant le match. À la mi-journée, Gérald Darmanin effectivement est donc le premier à avoir parlé de fraude massive, mais sans donner de chiffres précis. Ce que l'on sait, c'est que près des trois quarts des supporters anglais avaient des billets papier. Pour certains, des billets sécurisés avec du papier technique filigrané, mais un grand nombre de supporters de Liverpool avait des billets imprimés, vous savez, format PDF avec un QR code. Et c'est là que ça a coincé lors du pré-filtrage. Les stadiers ont utilisé des scannettes qui lisaient très mal les QR codes, voire pas du tout. Alors, il est évident qu'il est plus facile de pirater des billets imprimés à domicile. Les policiers ont d'ailleurs récupéré des billets avec le même QR code, mais des noms différents, par exemple. Mais pour plusieurs sources policières, il y a quand même eu un très gros problème donc avec les lecteurs numériques de la société qui opérait pour le compte de l'UEFA, alors que la plupart des billets anglais était en réalité de vrais billets.
Globalement, le ministre de l'Intérieur défend le dispositif mis en place par la préfecture, mais pointe à l'inverse la responsabilité des supporters britanniques.
La présence massive de ces faux billets est effectivement le mal racine qui a causé les reports par trois fois du commencement du match.
Voilà, Gérald Darmanin renvoie clairement la responsabilité du fiasco outre-Manche. Forcément, ça a du mal à passer. Richard Place, bonsoir. Vous êtes notre correspondant en direct de Londres, Richard Downing Street. Extrêmement déçu de la manière dont les supporters ont été traités.
Oui, et le plus violent finalement, c'est Gary Lineker, une ancienne gloire du ballon rond, désormais star de la télé, ici 8,5 millions d'abonnés sur Twitter, qui ont pu lire aujourd'hui une phrase en français sur son compte. C'est des conneries. Voilà ce qu'écrit Lineker en publiant un extrait de la déclaration de Gérald Darmanin qui parle des faux billets et des fans britanniques. Il est épaulé par un ancien joueur de Liverpool devenu consultant vedette, Jamie Carragher, qui se lâche. Gérald Darmanin est un imposteur. Les mensonges et la manipulation des personnes dépositaires de l'autorité sont une honte. Et ils ne sont pas les seuls à tenir ce discours. Je vous propose d'écouter Daniel. Il était au Stade de France samedi soir. Il a écouté les deux ministres français tout à l'heure et ça l'a mis bien en colère.
Ce sont des menteurs. Ils ont organisé ce rendez-vous aujourd'hui, pas pour découvrir ce qui s'est passé, mais pour créer une histoire pour se protéger. Pourquoi est-ce qu'il y a ce type de rendez-vous sans représentatif des supporters pour dire ce qu'ils ont vécu? C'est ridicule.
Le ton est monté et plus posé à Downing Street, vous l'avez dit. Le Premier ministre britannique est extrêmement déçu par la manière dont les fans de Liverpool ont été traités au Stade de France. C'est un porte-parole qu'il dit aujourd'hui. Il évoque les vidéos où l'on voit ses supporters aspergés de gaz lacrymogène et les juge profondément troublantes et préoccupantes.
Richard Place en direct de Londres et on le disait donc, une enquête a été ouverte en France.
Les associations de consommateurs s'inquiètent, mais le gouvernement rassure, la facture d'électricité ne s'envolera pas l'année prochaine.
La hausse des prix est contenue depuis le 1er février à 4% au lieu des plus de 44% attendus. C'est le bouclier tarifaire décidé par le gouvernement. Mais les prix continuent de monter au risque d'un rattrapage possible en 2023. Anticipé il y a quelques jours la commission de régulation de l'énergie à plus de 8% potentiellement. La CLCV s'est fendue d'un courrier à la première ministre qui s'est donné comme urgence des urgences le pouvoir d'achat des Français. Le ministre de l'économie a donc voulu rassurer cet après-midi.
Je veux être très clair avec nos compatriotes, les consommateurs français ne verront aucun rattrapage lié à ce besoin de financement sur la facture en 2023. Nous avons pris avec le président de la République une promesse. Cette promesse, nous la tiendrons. Ce sont des dépenses qui sont importantes, ce sont des dépenses qui sont efficaces. 4% un peu plus d'inflation aujourd'hui en France, c'est le niveau d'inflation le plus faible de tous les pays de la zone euro.
Voilà, on aura compris Bruno Le Maire, malgré la qualité du son. Pas de rattrapage 2023. Bonsoir Delphine Simon.
Bonsoir.
Mais il reconnaît un besoin de financement supplémentaire de 2 milliards d'euros quand même. Comment l'absorber ?
Eh bien, ce ne sont pas les consommateurs qui vont payer, pas non plus les fournisseurs d'énergie. Légalement, c'est impossible. C'est donc l'État qui va mettre la main au portefeuille. L'État, c'est-à-dire le contribuable. Alors, quelles seront les modalités ? À ce stade, rien n'est sûr, mais il n'y a pas énormément de solutions, rappellent certains. Tout d'abord, le gouvernement peut jouer sur la fiscalité. Cette année, il renonce aux recettes de la TICFE, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. 8 milliards d'euros, il pourrait faire de même l'an prochain. Autre option, un nouvel effort demandé à EDF qui mettrait plus d'électricité à bas prix sur le marché. Une mesure qui aurait finalement peu d'impact sur les comptes de l'électricien, selon certains. Du moins, si le gouvernement s'y prend tôt. Cette année, EDF a dû racheter très tard, pour très cher aussi, pour revendre à prix cassé, ce qui a creusé ses pertes. Tout est sur la table, selon Bercy, dont acte, répond l'association de consommateurs CLCV, satisfaite d'un engagement du gouvernement avant les élections législatives. Mmh. Une promesse électorale qui va donc figurer au prochain budget 2023, débattu à la rentrée.
Le pouvoir d'achat très présent dans cette campagne des législatives. Nous sommes à 12 jours du premier tour aujourd'hui. La réforme des retraites, en revanche, remise à plus tard. La borne des 65 ans n'est pas un totem, disait d'ailleurs il y a quelques jours la Première Ministre. Les syndicats y sont tous opposés. La priorité est de bloquer ce recul, redit aujourd'hui Yves Verrier, qui passe la main cette semaine à la tête de Force Ouvrière. Le congrès s'est ouvert à Rouen. La campagne officielle des législatives a donc démarré aujourd'hui pour 6293 candidats, 577 circonscriptions. Et ce soir, zoom sur la 6e des Hauts-de-Seine, celle de Neuilly-sur-Seine et de Puteau, ancien fief de Nicolas Sarkozy, où s'affrontent 50 nuances de droite. Reportage Élodie Forêt.
Votre ville politique au marché de Neuilly, au bout d'une allée, Constance Le Grip, députée sortante, qui le 8 mai a changé de camp, désormais candidate officielle d'Emmanuel Macron, annonce-t-elle sur ses tracts.
Donc je veux afficher la couleur de manière nette, claire et honnête.
À quelques mètres, la formule fait rire jaune Patrick Pessis. Il tractait pour Constance Le Grip, désormais il est investi par LR et ne retient pas les coups.
C'est cet opportunisme qui dégoûte les gens. Comment faire voter les jeunes si on voit que tous les gens comme ça tournent leur veste pour garder leur job.
Les LR trahis et les marcheurs historiques vexés, ils maintiennent leur candidate Faïza Basini. En lice aussi le publicitaire Franck Tapiro, proche un temps de Nicolas Sarkozy, puis soutien d'Emmanuel Macron, aujourd'hui candidat citoyen.
Vous avez des gens qui trahissent en une nuit, des gens qui vont se venger. Mais tout ça, c'est la politique politicienne qu'on ne supporte plus.
Candidate de la NUP, Julie Barbeau raille 50 nuances de droite.
J'avoue avoir du mal à les différencier. Moi, je me bats pour les quartiers populaire de cette circonscription, pour les personnes inquiètes de l'écologie qui ont conscience qu'on fonce droit dans le mur.
Une multiplication des candidatures de centre-droit observée aussi avec attention par Marie-Caroline Le Pen, la sœur de Marine Le Pen qui retourne ici au combat législatif.
À part moi, tout le monde a appelé à voter Macron.
Et par Franck Keller, candidat soutenu par Reconquête, qui espère, à Neuilly notamment, aspirer une partie du vote LR.
Reportage Élodie Forêt. Il avait un boulevard, il a fini dans une impasse. Quand l'ancien conseiller Yannick Jadot décortique l'échec écologiste à la présidentielle, c'est sans concession. 35 pages d'analyse pour la Fondation Jean Jaurès, signée Denis Pingot. Un positionnement tiraillé entre la volonté de séduire un électorat radical et celle de contenter une sociale écologie de gouvernement. Une stratégie peu lisible. Rapport détaillé à lire sur franceinter.fr. Et puis en bref encore, le parquet fait appel de la libération conditionnelle que Patrick Balkany venait d'obtenir après 5 mois passés en prison pour fraude fiscale. Alors qu'on s'inquiète de ces mystérieuses traces de piqûres après des soirées en boîte de nuit, 350 plaintes déposées depuis la fin mars, selon nos dernières informations. 25 associations demandent aujourd'hui au gouvernement de faire plus contre ces drogues qui circulent, le plus souvent glissées à l'insu du consommateur dans un verre sur le comptoir. L'exécutif a bien lancé en février dernier un plan anti-GHB, longtemps surnommé la drogue du violeur. Bonsoir William Delesseux.
Bonsoir Hélène.
Mais ça ne suffit pas pour les associations, car le GHB est loin d'être la drogue qui circule le plus.
Oui, ce n'est pas ce produit qui est en cause la plupart du temps. Dans 7 cas sur 10, pas de GHB dans les analyses des victimes, mais des antidépresseurs, des substances qui sont détournées de leur usage, d'après des chiffres que l'Agence nationale de sécurité du médicament va révéler dans les prochains jours. La docteure en pharmacie, Leïla Chawashi, conduit cette enquête.
Ça va être essentiellement des médicaments sédatifs qu'on va mettre. Donc le but, c'est de vous fatiguer, de baisser votre vigilance, accessoirement de vous empêcher tout simplement de réagir pour pouvoir commettre un crime ou un délit derrière. Il y a plusieurs vecteurs qui peuvent être utilisés. La plupart du temps, ça va être la boisson alcoolisée, mais la boisson de façon générale. Et après, ça peut passer par d'autres vecteurs comme la nourriture ou autre chose. On a pu observer ce type d'usage.
Et comment réagir dans les lieux de nuit face à ces comprimés? L'une des réponses en ce moment, ce sont des gérants qui prévoient des dispositifs pour couvrir les verres des consommateurs. Peu efficace, répond Marion Delpech de l'association ActRight.
Moi, je les appelle les capotes de verre, mais ça peut être une solution palliative pour celles et ceux, parce que ça peut aussi être des garçons qui peuvent en ressentir l'utilité. Maintenant, voilà, on replace toujours cette culpabilité sur les victimes, c'est à elles de faire attention, et alors qu'au final, le réel problème, ça reste les agresseurs.
Son appel, c'est une meilleure communication du gouvernement pour faire connaître la réalité du phénomène. L'un des défis, c'est encore le dépistage de l'agression. Il est généralement réalisé trop longtemps après le dépôt de plainte, quand celui-ci a lieu.
Explication signée William Delay.
Allez, la fête se prépare, enfin pas pour tout le monde n'y sera pas en tout cas.
33e cérémonie des Molières ce soir aux Folies Bergères à Paris, la grande fête du théâtre qui s'ouvre sur une polémique. Le collectif MeToo Théâtre devait lire un texte sur les violences sexuelles dans ce milieu. L'organisation a voulu le réécrire, ce qu'ont refusé les militantes. Elle manifeste donc ce soir devant les Folies Bergères. Où vous vous trouvez? Bonsoir Stéphane Capron.
Bonsoir Hélène.
Pour dénoncer ce qu'elle considère être de la censure.
Oui, en fait, c'est l'organisation des Molières, en fait, qui avait sollicité le collectif MeToo Théâtre à prendre la parole au début de la cérémonie pour évoquer les violences sexuelles dans le monde du théâtre. Cette prise de parole devait éviter l'évocation de cas particuliers. Or, dans le texte qui a été transmis au moment des répétitions, Marie Coquille-Chambel, qui devait le lire, faisait état de l'affaire qui la concerne avec un comédien de la Comédie Française. La direction des Molières lui a demandé de retravailler le texte, mais le collectif a refusé. On attend quelques membres qui devraient manifester à partir de 19h30 devant le théâtre des Folies Bergères. Il faut noter, Hélène, que les manifestations ont du bon pour faire bouger les lignes. Il y a 5 ans, ici même, des collectifs avaient manifesté pour demander plus de diversité, plus de parité. Et cette année, il y a la parité dans les catégories metteurs et metteuses en scène et autrices et auteurs, ce qui était loin d'être le cas lors des cérémonies précédentes.
Et la cérémonie de ce soir, Stéphane, est marquée par ailleurs par un contexte économique morose.
Oui, cette cérémonie, c'est vraiment un éclairage important pour le théâtre qui peine à retrouver son public. Selon les chiffres de l'association pour le soutien du théâtre privé, la baisse de la fréquentation au premier trimestre 2022 est de 44% par rapport à 2019. La fin des jauges et l'arrêt du port du masque n'ont pas eu d'effet. Alors, avec le retour de cette cérémonie en prime time sur France 3, le monde du théâtre espère faire revenir le public, d'autant qu'il y a cette année beaucoup de vedettes dans les catégories comédiennes ou comédiens. Isabelle Huppert, Vanessa Paradis, Laetitia Casta, Julie Depardieu, Pierre Arditi, Jacques Weber, Jacques Gamblin ou encore Michel Bougenat. Et puis, on devrait retrouver dans le palmarès 2 spectacles qui totalisent 5 nominations, comme il vous plaira, de Shakespeare pour le théâtre privé et Les Gros Patines pour le théâtre public.
Stéphane Capron avec Nicolas Mathias en direct des Folies Bergères et on vous attend, Stéphane, pour le palmarès tout à l'heure dans le journal de 23h. Incroyable, le jeune Danois Holger Rune a du mal à y croire, mais il vient de sortir le 4e mondial sur la terre battue de Roland-Garros, le finaliste sortant Stefanos Tsitsipas. Et puis les autorités avaient prévu de l'euthanasier afin de mettre fin à ses souffrances. L'orque égarée dans la Seine a été retrouvée morte ce matin par les équipes de Sea Shepherd France. Certains campeurs l'avaient aussi repérée un peu plus tôt dans la matinée. Reportage France Bleu Normandie, signé Anne Bertrand.
Cet Allemand et sa femme se sont réveillés face à la Seine avec une drôle de surprise.
Oui, très surpris. On était en train de petit déjeuner quand tout à coup, une orque morte.
Claude s'est approché quand il a vu plusieurs de ses voisins camping-caristes prendre des photos et lui aussi a vu l'orque.
Elle était juste en face de mon camping-car et elle a passé à 3 mètres d'ici. Et c'est comme ça que je l'ai vue.
Et pour vous, elle était morte?
Ah oui, pour moi, elle était morte. Elle n'a pas bougé de là jusqu'à là et après, elle a dérivé, mais elle est toujours dans la même position.
L'orque était couchée sur le flanc. Difficile encore de dire à quand remonte la mort, selon l'association Sea Shepherd, qui a plus tard dans la matinée localisé le cadavre. Mais comme l'ONG, les camping-caristes de la Maillerais-sur-Seine trouvent que l'État a mis trop de temps à réagir. agir. Car l'orque a été aperçu pour la première fois le 16 mai entre Honfleur et Le Havre.
Au départ, la première fois qu'ils l'ont aperçu, c'était au niveau du pont de Normandie et du pont de Tancarville. Alors bon, ils avaient qu'à réagir un petit peu avant.
Déjà, s'ils l'ont vu au pont de Normandie, là c'est tout de suite, la mer est juste à côté.
Oui, oui. L'autopsie et les prélèvements réalisés sur l'orque permettront peut-être d'en savoir plus sur les causes de sa mort.
Voilà, pour le sauvetage malheureusement impossible de cet orque, ce reportage signé Anne Bertrand, France Bleu Normandie.
Merci beaucoup Hélène Philippe pour le journal. On se retrouve demain. Pour nous, ça continue. Le 18-20 de France Inter se poursuit avec le téléphone sonne. On va parler législative. C'est dans 15 jours, figurez-vous. Comment vous sentez les choses et qu'est-ce que vous sentez surtout? Ça se passe au 01 45 24 7000. On jette d'abord un œil sur le ciel.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Élodie Calac, journée agréable demain.
Oui, sur la moitié nord du soleil. Alors quelques passages nuageux tout de même de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais le matin. Ils gagneront le Grand Est l'après-midi. Une averse possible au nord de la Seine. Sur le sud-ouest et en Méditerranée, là aussi du soleil et quelques passages nuageux. Parfois une averse le matin au nord de la Garonne. Un risque d'averse pour les Pyrénées et les Cévennes l'après-midi. Et puis le ciel sera plus encombré entre le Massif central, le Jura, les Alpes avec quelques averses qui se limiteront au relief l'après-midi. Mais un coup de tonnerre sera possible sur le nord des Alpes.
Et quelques degrés de plus qu'aujourd'hui.
Oui, l'après-midi, 16 degrés attendus au Havre, 19 à Lille, 22 à Paris, 24 degrés à Angers, Strasbourg, Lyon, 25 du côté de Bordeaux, 27 à Toulouse ou à Nîmes et 28 à Bastia. Et puis les températures poursuivront leur hausse mercredi. Il fera 22 degrés en moyenne au nord et 28 au sud.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.